France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
C'est en mai 68, le 18 mai 68, qu'a été enregistrée cette émission « Les poèmes du XXe siècle » produite par Alain Bosquet. Entre l'humour et la mort, elle nous invite à un saute-mouton burlesque illustré musicalement par Christian Garros. Cocteau, Supervielle, Soupeau, Éluard, Audiberti, Aragon, Queneau, Tardieu, Prévert, Lorca et d'autres. Des poèmes rageurs, goguenards, angoissés, désinvoltes, absurdes. À la blague ou au tragique, un numéro d'équilibriste au-dessus du néant. Avec les voix de Martine Sarcé, Jean Ozène, Jacques Dacmine, Pierre Mondy, Pierre Michael, Bernard Fresson et Michel Deray.
Tentons aujourd'hui, voulez-vous, une expérience un peu particulière. Mêlons deux genres incompatibles, la poésie du rire et la poésie de la mort. Acceptons la méthode de la douche écossaise. Demandons-nous si la poésie du rire est toujours une poésie mineure. Et disons-nous que le poème doit avoir sa force propre, sa fascination propre, quel que soit le contexte. Tout ce qui a trait à la mort est grave. Même s'il nous arrive de découvrir derrière la tragédie un semblant de sourire apaisé. Mais comment définir le rire en poésie et distinguer le burlesque du comique, l'humour rose de l'humour noir? Et si, en fin de compte, nous découvrions l'humour gris, ou azuré, ou cyclamène, quitte à nous moquer des classements? Jean Cocteau, gentil compagnon du trapèze volant, clown adorable, spécialiste de la pirouette, funambule qui se prenait au sérieux pour ne pas pleurer de son destin de Pierrot. Il inventait des poèmes timbre-poste. Il sautillait du temps où le cubisme découvrait le jazz. Chapeau mou, chapeau pointu. La forgue du XXe siècle avec une cargaison de points sur l'Y.
Timbre-poste.
Cacatoès, boisson.
Le pôle sud, on y va, c'était fatal.
Pose ta main sur mon épaule, souvenir du pays natal.
Ein, zwei, drei. Voyez le vieux Goethe, il sautille comme une chèvre sur le Vésuve. Il porte un livre grec, un herbier, un filet à papillon. Il casse des gros morceaux de Vésuve et en remplit ses poches, car la fin des vacances d'Eckermann approche. Henri Heine aimait bien Paris, le beau juif mort d'amourette. Nietzsche achetait ce qu'on trouve à la gare de Sils Maria, des livres de Gyp de Paul Bourget. Zarathustra est un vieux guide suisse, mais son diamant raye tout. Brûle aux lampes le fauteuil de Weimar, sa sœur œuvre. On ne peut plus le voir, c'est fini. Qui trop devine et qui trop parle sera cruellement puni.
Rire ou féerie? Il y a du fabuliste en Jules Supervielle, qui aimait des girafes si grandes qu'elles pouvaient brouter les étoiles. rire cosmique aussi, avec le vertige des pampas et des nuits sans fond. Et une pointe d'inquiétude devant le spectacle de la planète Terre, qu'il appelait la salée aux trois quarts.
Les amis inconnus. Une table tout près. Une lampe très loin. Qui, dans l'air irrité, ne peuvent se rejoindre. Et jusqu'à l'horizon, une plage déserte. Un homme à la mer lève un bras, crie « Au secours !» Et l'écho lui répond « Qu'entendez-vous par là ?»
Véritablement découvert après sa mort, il y a 2 ans, Jean Harpe, sculpteur célèbre, était en réalité le plus persévérant et le plus désopilant de nos dadaïstes. Cul par-dessus tête, les mots, les phrases, les propositions, les images sont toujours de travers et signifient toujours autre chose, ou n'importe quoi.
L'éléphant tyrolien. Il cire, il grince. L'éléphant tyrolien est la grand-mère de caoutchouc, frappe le piano de la mort. Ils frappent à tour de bras, sans relâche, à tout casser. Ils écument, ils transpirent. Leurs pattes transforment le piano de la mort en fer rasé. Comme ils n'ont finalement plus rien du piano sous leurs mains, ils frottent les milliards du temps, accumulent dans des zeppelins des tripes électriques, couronnent des mouches et mangent des petits-enfants salés, des oranges au phosphore et de la marmelade d'avion. La grand-mère de caoutchouc fume un cigare grand comme une grand-mère. Elle pousse des cris joyeux. La grand-mère de caoutchouc a du sexe sa pile, et à son appel, le champignon diabolique et parfumé se jette dans un élan terrifiant sur la grand-mère de caoutchouc qu'il lèche sans relâche à tour de bras. N'as-tu plus rien dans la bouche? Le plaisir est grand, la grand-mère grandit. Continue, champignon diabolique et parfumé, continue, dépasse-toi, crocodile terrifiant et sucré. La joie est grande, l'éléphant tyrolien est diplomate. Il ne dit que coin, 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 mais comme le champignon diabolique et parfumé ne se dépasse pas, la grand-mère de caoutchouc le jette comme une mouche sans pattes dans un lac de cambouis en grinçant. Marmelade, marmelade, tout est marmelade. La chute d'une marine de guerre dans du lait sucré tare la nudité de cette danse majestueuse.
Benjamin Perret, encore un méconnu de son vivant. On l'a pris un peu facilement pour un émule docile d'André Breton. Il est plus que cela, l'un des pères de l'absurde moderne, avec quelque chose de terroriste à saccager la logique, à dynamiter la raison, à se venger du verbe parce qu'il prétendait dire des choses précises. C'est un Alphonse Allais qui aurait fait de l'irraison une déesse exigeante et féroce.
Allô? Mon avion en flammes, mon château inondé de vin du Rhin, mon ghetto d'iris noir, mon oreille de cristal, mon rocher dévalant la falaise pour écraser le garde-champêtre, mon escargot d'opale, mon moustique d'air, mon édredon de paradisier, ma chevelure d'écume noire, mon tombeau éclaté, ma pluie de sauterelles rouges, mon île volante, mon raisin de turquoise, ma collision d'auto folles et prudentes, ma plate-bande sauvage, mon oignon de tulipe dans le cerveau, ma gazelle égarée dans un cinéma des boulevards, ma cassette de soleil, mon fruit de volcan, mon rire des temps cachés où vont se noyer les prophètes distraits, mon inondation de cassis, mon papillon de morille, ma cascade bleue comme une lame de fond qui fait le printemps, mon revolver de corail dont la bouche m'attire comme l'œil d'un puits scintillant, glacé comme le miroir où tu contemples la fuite des oiseaux mouches de ton regard perdu dans une exposition de blanc encadré de momies. Je t'aime.
Source. Il est rosa moins rosa, dit la giboulée qui se réjouit de rafraîchir le vin blanc en attendant de défoncer les églises un quelconque jour de Pâques. il est rosa, moins rosa. Et quand le taureau furieux de la grande cataracte m'envahit sous ses ailes de corbeau chassées de 1000 tours en ruine, quel temps fait-il ? Il fait un temps rosa, avec un vrai soleil de rosa. Et je vais boire rosa en mangeant rosa, jusqu'à ce que je m'endorme d'un sommeil de rosa, vêtu des rêves rosa. Et l'aube rosa me réveillera comme un champignon rosa, où se verra l'image de rosa entourée d'un halo rosa.
Grand chercheur devant l'éternel et le néant, Henri Michaux ne peut se contenter d'une tristesse banale quand il parle de la mort. Il doit chercher querelle à soi-même, à la mort, et lancer un défi après l'autre. Toutes les rages y passent. Pas question de pardonner à l'homme ou à Dieu d'être ce qu'ils sont.
Comme je vous vois, ceux qui me voient venir, moi aussi je les vois venir. Un jour, le froid parlera. Le froid, repoussant la porte, montrera le néant. Et alors, mes gaillards, et alors, petits déculottés qui plastronnez encore, gonflés de la voix des autres et des poumons de l'époque, tout le troupeau, je le vois dans un seul fourreau. Vous travaillez. Le palmier aussi agite ses bras. Et vous, guerriers, soldats au bon cœur, vendus bénévoles, votre belle cause est mesquine, elle aura froid. Dans les couloirs de l'histoire, comme elle a froid. Je vous vois en tablier, moi, est-ce curieux? Je vois le Christ aussi, pourquoi pas? Comme il était il y a près de 1940 ans, plus beau, c'était déjà fini. Le visage rongé des baisers des futurs chrétiens. Alors, ça marche toujours la vente des timbres pour l'au-delà? Allons, au revoir tous. Je n'ai encore qu'un pied dans l'ascenseur. Adios.
De tous les surréalistes, Philippe Soupeau est sans doute le plus chantant. L'angoisse de la mort ne va pas chez lui sans gestes élégants. Il salue à la ronde, comme Alfred de Musset, et s'en va dans le rien, injure légère à la bouche.
La bouée. Foutez-moi à la mer, mes amis, quand je mourrai. Ce n'est pas qu'elle soit belle et qu'elle me plaise tant, mais elle refuse les traces, les saletés, les croix, les bannières. Elle est le vrai silence et la vraie solitude. Pour un peu de temps, celui qui me reste à vivre. Nous savons, mes amis, que l'odeur qui règne autour des villes est celle des cimetières, que le bruit des cloches est plus fort que celui du sang. Foutez-moi à la mer, mes amis. Il y a de la lumière et du vent et ce sel qui ronge tout, qui est comme le feu et comme les années. La mer ne reflète rien, ni les visages, ni les grimaces. Je ne veux pas de ces longs cortèges, de ces femmes en deuil, des gants noirs et de tous ces bavards, rien. Qui rappelle ces ombres, ces larmes et ces oublis. La mort est mon sommeil, mon cher sommeil. Foutez-moi à la mer, les amis. Les amis inconnus, mes frères, tous ceux qui ne m'ont pas connu et qui n'auront ni regrets ni souvenirs, pas de souvenirs, surtout, seulement un coup d'épaule.
Même désinvolture chez Robert Desnos. On saigne, on tue, on meurt. Tout cela est-il vraiment tragique pour le jeune surréaliste assoiffé d'originalité à tout prix? La mort est une rigolade, ou si l'on préfère, la rigolade montre le crâne sous le rire. Humour noir, humour de suie.
Les 400 coups. Ils étaient quatre qui n'avaient plus de tête. Quatre à qui l'on avait coupé le cou, on les appelait les quatre sans cou. Quand ils buvaient un verre au café de la place ou du boulevard, les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand ils mangeaient, c'était sanglant. Et tous quatre, chantant et sanglotant, quand ils aimaient, c'était du sang. Quand ils couraient, c'était du vent. Quand ils pleuraient, c'était vivant. Quand ils dormaient, c'était sans regret. Quand ils travaillaient, c'était méchant. Quand ils rôdaient, c'était effrayant. Quand ils jouaient, c'était différent. Quand ils jouaient, c'était comme tout le monde, comme vous et moi, vous et nous et tous les autres. Quand ils jouaient, c'était étonnant. Mais quand ils parlaient, c'était d'amour. Ils auraient pour un baiser donné tout ce qui leur restait de sang. Leurs mains avaient des lignes sans nombre qui se perdaient parmi les ombres comme des rails dans la forêt. Quand ils s'asseyaient, c'était plus majestueux que des rois. Et les idoles se cachaient derrière leurs croix quand devant elles ils passaient droit. On leur avait rapporté leurs têtes plus de 20 fois, plus de 100 fois, les ayant retrouvées à la chasse ou dans les fêtes. Mais jamais ils ne voulurent reprendre ces têtes où brillaient leurs yeux, où les souvenirs dormaient dans leur cervelle. Cela ne faisait peut-être pas l'affaire des chapeliers et des dentistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Les 400 coups vivent encore, c'est certain, j'en connais au moins un, et peut-être aussi les 3 autres. Le premier, c'est Anatole. Le second, c'est Croquignole. Le troisième, c'est Barbe Molle. Le quatrième, c'est encore Anatole. Je les vois de moins en moins, car c'est déprimant à la fin. La fréquentation des gens trop malins.
Pour avoir fait trop rire et pour avoir écrit les poèmes les plus désopilants de sa génération, André Frédéric, amuseur triste, a fini par se suicider. C'est un descendant des fantaisistes et un cousin de Max Jacob. Pince sans rire, ou, comme il aurait pu se surnommer, Prince sans rire.
Don Juan. J'ai connu la décervelée des tempes, qui savait compter jusqu'à 3. La borgne de Paimpol et la boiteuse de Pithiviers qui a renoncé à la marche à pied. La bleue du Chili qui déteint à l'eau de pluie. J'ai eu la femme tirelire, la femme tronc, la femme chien, la femme aux mains d'ébène, la femme en fer qui ne rouille pas. Lolita, perroquet des îles, moitié oiseau, moitié renard. La femme pendule qui mourut par la femme canon. De sa bouche hissait les obus qui renversèrent notre amour. La reine de Broadway avec ses 2 bouches peintes. L'orthopédiste aux dents d'alcool qui crachait des fleurs du néant. L'amazone hagarde qui traverse 20 centimètres de plomb. La femme aux yeux de porcelaine qui pleurait des perles du Japon. L'aveugle aux yeux de marcassite. Femme, combien vous défilâtes à mon gré. Femme poisson au sein coupé, femme au sein superposé, femme au sein remplacé par des poignées, combien je vis des exotiques. Et vous, presque femme, animaux équivoques, marchant dans votre haine fragile sur des sabots d'argent, la salée du Portugal, dont la bouche est un miel, mais qui pique au réveil, la fripée de Rotterdam, qui sait si bien se cacher sous les draps qu'on la cherche dans les plis. La calcinée de Draguignan, qui brûle tous les plastrons quand on l'embrasse. L'explosive des Dolomites, qui ne sert qu'à vous réveiller en sursaut. L'orpheline perpétuelle du Canada, qui enterre sa mère tous les jeudis. La femme au crochet, et la femme viande abattue, qui pourrit dans votre lit, si on ne lui donne pas d'argent. La créancière, la marginale, la petite sœur des morts, la noyée des mers, des mares et des bassins. La hollandaise flottante, la retournable, la fiduciaire, la en vrac, l'écorchée de Bagdad, la moribonde, la swab, la soisse. Mais c'est toi que j'aime, oh, la suivante.
La mort est aussi celle que l'homme réserve à l'homme, la torture et la vengeance. J'écris ton nom partout, torture, aurait pu dire le grand Paul Éluard dans les années les plus noires de notre siècle.
D'un seul poème, entre la vie et la mort. As-tu bien vu ton semblable? Comme il profite de tout. Il a la tête brûlante, il a la tête enflammée sous un masque de soleil. Sous un doux masque d'or double, ses yeux sont des roses chaudes, carton semblable à bon cœur. Il t'a montré le chemin, vers la grille et vers la clé, vers la porte à dépasser, vers ta femme et tes enfants, vers la place des visages. Il te rend la liberté. Mais je rêve, et j'en ai honte. L'on va t'imposer la mort. La mort légère et puante, qui ne répond qu'à la mort. Tout va d'un lieu grondant de vie vers le désert. La source de ton sang s'atténue, disparaît. Nos ennemis ont besoin de tuer. Ils ont besoin d'être nos ennemis. Il n'y a rien d'essentiel à détruire qu'un homme après un homme. Il n'y a rien d'essentiel à créer que la vie tout entière en un seul corps, que le respect de la vie et des morts qui sont morts pour la vie, comme toi, mon semblable, qui n'a rien fait que de haïr la mort.
Dans l'amour, dans le bonheur, toujours, à un moment donné, on est pris de panique. Le sentiment de l'éternel est lié à celui de la précarité humaine. Pour Aragon, comme pour tout grand poète de l'amour, vivre intensément, c'est combattre la mort et savoir qu'elle est là.
Elsa, mon sombre amour d'orange amère, ma chanson d'écluse et de vent, mon quartier d'ombre où vient rêvant mourir la mer, mon doux mois d'août, dont le ciel pleut des étoiles sur les monts calmes, ma songerie au mur de palme où l'air est bleu, mes bras d'or, mes faibles merveilles renaissent, ma soif et ma faim, collier, collier des soirs sans fin où le cœur veille. Dire que je puis disparaître sans t'avoir tressé tous les joncs, disperser les seins des pigeons à ta fenêtre, sans faire flèche du matin, flèche du trouble, et de la fleur de l'eau fraîche et de la douleur dont tu m'atteins. Est-ce qu'on sait ce qui se passe? C'est peut-être bien ce tantôt que l'on jettera le manteau dessus ma face, et tout ce langage perdu, ce trésor dans la fondrière, mon cri recouvert de prières, mon chant vendu. Je ne regrette rien qu'avoir la bouche pleine de mots tus et dresser trop peu de statues à ta mémoire. Ah, tant disent encore qu'il bat ce cœur usé contre sa cage pour elle, qu'un dernier saccage le maître bat. Couper ma gorge et les pivoines, vite, apporter mon vin, mon sang pour lui plaire, comme en passant font les avoines. Il me reste si peu de temps pour aller au bout de moi-même et pour crier Dieu que je t'aime tant.
Joueur, jongleur, jocrisse, Jean Cocteau, voir. Après tant de tours de passe-passe, il arrive qu'on devienne l'enjeu de son propre jeu. Et l'on sait qu'on va devoir céder la place. Devant l'irrémédiable. Encore une pirouette, s'il vous plaît. La dernière, la plus coûteuse, et peut-être la plus sincère. Celle qui consiste à rédiger son épitaphe pour conjurer un sort qui ne peut être conjuré.
Le Requiem. Ce n'est plus toi, solitude sainte, ce n'est plus toi, mystère, que ma plume vante, ce n'est plus toi, jeune mort, auprès de mon lit assise, ta main dans ma main inerte, c'est la foudre, sur mon vieil arbre semblable à quelque gibet médiéval, où le vent cravaté de chanvre vous berce, père pourri de mandragore. Je sollicite mon pardon pour le crime de m'être cru capable de muter sans aide mon sang neuf en encre, fontaine du temple, archer solaire, mille et mille fois, je mérite, lié au pain qui s'écoule, ma douloureuse résine. Revenez, onde solide, plus rapide que les boucliers du silence, que les astronefs des Indes, vous, porteuse d'œuvres lourdes de l'érectéon, et vous, sœur dont m'est-elle une maternelle, rendez-moi cette meurtrière compagne, cette mante religieuse, cet amour qui me dévorait, son bec, ses longues jambes d'amazone verte, son œil de Pallas, au fond des fentes du casque. Rendez-moi le ciel orageux, hérissé par l'éclair des flèches infatigables du génie. Oh, seul, ne m'abandonnez plus sur ce banc d'écorce. Je meurs d'une fausse mort, je me vide, je regarde couler ma sève impuissante par mes doigts qu'un bel hostile défeuille. Ma bouche ouverte sur une ombre sépulcrale, en forme de cri, n'ose vous appeler à l'aide. Écoutez crier mon silence, plus intolérable et plus fort que la trompette de l'ange. Même si les chevaux du dieu, mes quatre membres, écartèlent, même si, se couchant sur moi, m'écrase l'épouse de bronze, si sa vengeance me veut désarmer par la maladie, même si, gisant de pierre, les doigts joints, je dois sur les bords du Styx, serrer dans ma main froide l'inutile obole, sauvez-moi de cette peine néfaste et chère aux humains. Muse, Ariane, archer divin, c'est trop cher payer cet échange d'un vieux vin contre un jeune vin, si je m'aperçois être l'urne funéraire du taciturne. Que pour servir je suis né, si je n'ose en moi descendre pour n'y trouver que des cendres, si de tout s'abandonner, le sort versatile m'oppose un dos dédaigné de dormeur, et si, mon requiem, je signe avec la plume d'un cygne qui ne chante que s'il meurt. À vous, qui n'êtes pas encore, à vous qui, tel que je suis, serez, à vous, laissant visage, c'est à vous que je m'adresse, à vous que je parle, ma nuit mise en plein jour par l'artifice d'une main soumise aux ordres obscurs de l'étrange étranger. En ce lieu d'où partent mes ondes, lieu sans lieu, déjà vous êtes préventivement adulte, loin de la foire d'empoigne, on vous jettera le cordon ombilical de vos mères. C'est pourquoi, de cette chance qui vous livre à moi, je profite pour infuser au fond de vos jeunes veines, encore veines, l'encre rouge de mon cœur. Halte, pèlerin, mon voyage allait de danger en danger, il est juste qu'on m'envisage après m'avoir dévisagé.
L'une des spécialités du rire français, depuis les fantasies du Moyen-Âge, c'est le jeu de mots, la danse des sons, la contrepétrie. Gratuit pour gratuit, en voici d'André Frédéric, de Jacques Audiberti, de Norge, ce rénovateur de la langue verte.
André Frédéric. Injustice. À Louise de Villemorin. Madame Pron, Madame Pou ont deux époux, l'époux Pron et l'époux Pou. Mais les poupons des époux Pron auront plus de sous que ceux des époux Pou.
Jacques Audiberti, pensée. Il se grattait tant qu'il pouvait, parce qu'il croyait qu'il l'avait. Malaise. Qui ? Pascal ? Quoi ? La foi ? Cher Blaise.
Norge, Toto. Ton tant es-tu de tatou ? T'as-tu tout de tes doutes ? T'as-tu tout dû de tes dettes ? T'as-tu tout dit de tes dates ? T'as-t-on tantôt t'es ta teinte ? T'as-t-on dondon t'es tonton ? T'as-t-il tâté tout t'es ton ? T'as-t-il tenté tout tu-tu ? T'es-t-il tant ? T'es-t-il titan ? T'es-t-il toi dans tes totos ? Ta-ta-ta, tu-tu-ton-tout.
Minoiselle. Où-ce qu'est la petite minoiselle, la florette des minous ? La mignonnette si joiselle qui florissait parmi nous ? Où-ce qu'est la zouzelle grive dont le chant se perlousait comme rosée à l'endive et myrtille à la forêt ? La voici sous le pleuvant de ses bouclettes barlongues, zazouillant à tous les vents la voyelle et la diphtongue, ses fossettes, des dazettes, ses nichettes, ses ouillets, c'est la prune, c'est l'œillet, la cerise et l'alouette. La voici parlant bélie, si tontine de maintien qu'on dirait dans la prairie une biche du matin, si tontine, si minette à bourgeonner du tétin qu'on dirait pour ma cueillette l'églantine du lopin. Jouvencelle, colombelle, pimpronelle, mirabelle, c'est elle ma péronnelle, ma donzelle, ma prunelle, c'est elle ma petite minoiselle.
À la suite d'Alfred Jarry, un pataphysicien comme Raymond Queneau ne peut concevoir la vie ou la poésie que comme une immense entreprise de démolition du langage. Il s'agit de se moquer de tout et de tous, surtout pas de sérieux. Et pour lui, l'art n'est que la première moitié de l'artichaut, l'art des vers comme les autres.
Encore l'arpeau. C'est mon pot, mon poème que je veux éditer. Ah, je l'ai, ah, je l'ai, ah, je l'aime, mon popo, mon popo, mon pommier. Oui, mon pot, mon poème, c'est à propos d'un pommier. Car je l'ai, car je l'ai, car je l'aime, mon popo, mon pommier. Il donne des poèmes, mon popo, mon pommier. C'est pour ça que je l'aime, la popo, mon pommier. Je la sucre et j'y mets de la crème. Sur la peau, la popome au pommier. Et ça vaut bien le poème que je vais éditer.
Solennité et grandeur de la mort. On ne commente pas les poèmes déchirants et inégalables de Marie-Noël.
Impropère et chant du linceul. Ô mon seul compagnon dans l'ombre, mon linceul, toi seul de tous ces draps, lequel entre les 12, tu sortiras un soir de l'armoire, toi seul, tu viendras prendre ma défaite pour épouse. Toi, le plus mûr qui n'ose plus servir à rien, toi comme un mendiant tout couvert des reprises que j'ai faites, croisant mon fil avec le tien pour rassurer la place où peut-être il se brise, avec la double lettre rouge dont hier, joyeusement, afin que tu me reconnaisses, je t'ai marqué, drap mien, d'un petit signe fier. Tu viendras avec moi par pauvre droit d'aînesse. Tu viendras avec moi dont personne ne suit le mal trop noir, après que les mains d'infirmière l'auront au bord affreux de la plus longue nuit, abandonnée sans pansement et sans lumière. Tu viendras, demeurée en la fleur du matin, douce toile vieillie et meilleure qu'embaume la lavande simple et fidèle du jardin, pour recouvrir l'odeur livide de mes paumes. Ô mon linge de fin dernière, pâle drap, de toi si pauvre on aura fait le sacrifice, et tu viendras tout blanc, tout large, tu viendras éponger l'ombre où pleurera mon immondice. Tu viendras sur ma honte à jamais étendue, sans les guérir jamais, essuyer mes prunelles, et jeter sur ma chair perdue, ô drap perdu, le suprême lambeau des pitiés éternelles.
C'est une mort tout aussi majestueuse, tout aussi chrétienne, tout aussi prometteuse de résurrection et de gloire que chante Pierre-Emmanuel.
Mort et résurrection. Quand l'heure de m'étendre avec toi dans la tombe tout entier me transporte au seul vendredi saint, entre ton corps et ton gibet, je suis ton ombre, mourant du même coup qui te perce le sein. La mère, elle reçoit ce fruit jumeau qui tombe au giron, s'affaissant sous le fardeau divin. Ses larmes lourdes sur son fils roulent des mondes dont l'orbe est à jamais tracée dans mon destin. La dalle roule et double, aux deux cœurs creux, résonne le néant. Cette attente ou qui attend ? Personne. Ou qui se tend ? La nuit dans le cadavre, sans que rien, pas même Dieu, ne sache que vont suivre la force, la rupture et le triomphe, livre couple pascal de l'homme-dieu se dédoublant. Les bourreaux, les badauds goûtent le frais du soir et flânent sur ta pente, mon terrible. Oh, ville, jardin de roses au couchant, un air tranquille venu des temps, polit ton repos de miroir. Loin, chétif, le dolent cortège d'Audeline, un ray d'ongle sur l'horizon. Dans le ciel haut, l'indifférence au front auguste et sans défaut, des pierres montent la louange. Dieu m'incline vers la terre, sa main de rosée que, rêvant, tel un dormeur le long de sa couche, le vent naissant, des plis de la nuit vaste qui s'avance, ne trouble ni la paix des cèdres, ni le vol de ses vautours vers les déserts. Seule une absence, les bras en croix, s'étonne immense sur le sol. Écarte ce linceul de chair et dresse-toi hors du dormeur vivant son ennui de cadavre. Brise ces 30 années muées en pierre, navre mon corps sépulcre en te ressuscitant de moi. T'ai-je scellé 30 ans ou 3 jours, Dieu si roide que je marchais en automate, tout ton poids me possédant jusqu'à la moelle et mon effroi d'être mort durcissait encore l'idole froide. Christ arrimé à mon destin depuis l'alpha des âges, corps plombé qui grave tous mes pas dans la cire sans cesse en fusion, la terre, tu bouges, tu me romps, tu te montres enfin, et voici que tes pas me précèdent. Je n'erre plus, le feu met un baume en tes traces. Je viens. Mais Dieu jamais ne ressuscite de ce mort que n'éveillerait point les Pâques éternelles. Vivre en ne faisant qu'un avec sa tombe, telle est la loi. Ces deux sœurs, la naissance et la mort, mûrissent ensemble au sein de la commune mère, se partagent la veillée longue en échangeant des signes par-dessus le cadavre. Oh, vivant, si leur voix ne te trouble en ton exil de terre, c'est que tu es vraiment de ce monde un absent, un mort né qui survit à son ombre. Le temps, cette coutume invétérée, de ne pas être, ayant séché d'oubli ton Dieu, ton corps est seul. Deux sœurs sombres tirant ta vie comme un linceul sur ce Dieu mort auquel tu défends de renaître.
Le tendre rossignol de la révolution russe, Serge Essénine, après une existence désordonnée, s'est donné la mort. Voici son dernier poème, écrit avec son sang.
Au revoir, mon ami. Au revoir. Mon cher, tu es là, dans ma poitrine. Cette séparation prédestinée nous promet de futures retrouvailles. Au revoir, mon ami. Sans poignée de main ni parole, ne t'attriste pas. Ne fronce pas les sourcils. Dans cette vie, il n'est guère nouveau de mourir. Mais vivre n'est certes pas plus nouveau.
pour l'amant des comètes et l'apprivoiseur du cosmos, Jules Superviel, la mort elle-même peut-elle être tragique? Il la préfère gracieuse, timide, empreinte de tendresse et entourée, dirait-on, d'excuses et d'attentions charmantes.
Pour un poète mort, donnez-lui vite une fourmi, et si petite soit-elle, mais qu'elle soit bien à lui. Il ne faut pas tromper un mort. Donnez-la lui, ou bien le bec d'une hirondelle, un bout d'herbe, un bout de Paris. Il n'a plus qu'un grand vide à lui, et comprend encore mal son sort. À choisir, il vous donne en échange des cadeaux plus obscurs que la main ne peut prendre, un reflet qui couche sous la neige, ou l'envers du plus haut des nuages, le silence au milieu du tapage, ou l'étoile que rien ne protège. Tout cela, il le nomme et le donne. Lui qui est sans un chien, ni personne.
Renverser la logique, imiter le don d'enfance qui met tout à l'envers avec espièglerie, n'est-ce pas la marque de Jean Tardieu dans certains de ses poèmes? Ailleurs, aimable persifleur de l'absurde, il aimerait abolir la frontière entre le comique en poésie et le comique au théâtre. La poésie, d'une curieuse manière, est aussi un dialogue de sourds.
Es-tu dans De mineur? Le ciel était de nuit, la nuit était de plainte. La plainte était d'espoir, les yeux étaient de lèvres, les lèvres étaient l'aube, la source était de neige. Ma vie était de flamme, ma flamme était de fleuve, le fleuve était de bronze, le bronze était d'aiguille, l'aiguille était d'horloge, l'horloge était d'hier, elle est de maintenant. Maintenant est de terre, maintenant est de pierre, maintenant est de pluie. Ma rive est de silence, mes mains sont de feuillage, ma mémoire est d'oubli.
Monsieur,
monsieur.
Monsieur, pardonnez-moi de vous importuner. Quel bizarre chapeau vous avez sur la tête.
Monsieur, vous vous trompez car je n'ai plus de tête. Comment voulez-vous donc que je porte un chapeau?
Et quel est cet habit dont vous êtes vêtu?
Monsieur, je le regrette, mais je n'ai plus de corps. Et n'ayant plus de corps, je ne mets plus d'habit.
Pourtant, lorsque je parle, monsieur, vous répondez et cela m'encourage à vous interroger. Monsieur, quels sont ces gens que je vois rassemblés et qui semblent attendre avant de s'avancer?
Monsieur, ce sont des arbres dans une plaine immense. Ils ne peuvent bouger car ils sont attachés.
Monsieur, 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 au-dessus de nos têtes, quels sont ces yeux nombreux qui dans la nuit regardent?
Monsieur, ce sont des astres. Ils tournent sur eux-mêmes et ne regardent rien.
Monsieur, quels sont ces cris? Quelque part on dirait que l'on rit, on dirait que l'on pleure. On dirait que l'on souffre.
Monsieur, ce sont les dents de l'océan qui mordent les rochers sans avoir soif ni faim et sans férocité.
Monsieur, quels sont ces actes, ces mouvements de feu, ces déplacements d'air, ces déplacements d'astres, roulements de tambours, roulements de tonnerre? On dirait des armées qui partent pour la guerre sans avoir d'ennemis.
Monsieur, c'est la matière qui s'enfante elle-même et se fait des enfants pour se faire la guerre.
Monsieur, soudain ceci m'étonne. Il n'y a plus personne. Pourtant, moi, je vous parle. Et vous m'entendez, puisque vous répondez?
Monsieur, ce sont les choses qui ne voient ni entendent, mais qui voudraient entendre et qui voudraient parler.
Monsieur, à travers tout, quelles sont ces images, tantôt en liberté, tantôt enfermées, cette énorme pensée où des figures passent, où brillent des couleurs?
Monsieur, c'était l'espace. Et l'espace se meurt.
Il arrive, chez cet incomparable rouspéteur qu'est Jacques Prévert, que l'absurde prenne des proportions gigantesques. C'est alors une dénonciation sans vergogne de l'homme, de l'humain et de l'imaginaire. rien ne résiste à son humour corrosif, et le ridicule ne cesse de croître, englobant même le lyrisme le plus pur.
La pêche à la baleine. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller? Et pourquoi donc? Et pourquoi donc j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Va la pêcher toi-même, puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole. À la pêche à la baleine, je ne suis pas allé, et pourquoi donc j'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre, et ruisselant d'eau, le père apparaît, hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable, « Dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. » Mais voilà Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. « Et pourquoi donc que je dépêcherais une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. » Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare, et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. « Ha ha !» dit le cousin Gaston, « ça me rappelle la chasse aux papillons. » Et voilà, voilà Prosper qui prépare les faire-part, la mère qui prend le deuil de son pauvre mari, et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie, « Et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant, les autres vont me pourchasser en motogodille, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. » Alors, éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant, « Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez, la baleine est sortie, asseyez-vous là, attendez-la, dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra. »
Poème, prose, récit, scène de théâtre, chez René de Obaldia, les limites sautent. Ces énormités ne vont pas sans un discret appel à la folie, qui seule peut-être peut nous sauver de l'ennui et de la prétention. La morale de Obaldia est plus simple qu'on ne pense. Il faut être dingue pour se supporter.
Le thé des Bedubriden. Les Bedubriden donnèrent le thé à l'occasion des 20 printemps de leur demoiselle. Les invités vinrent nombreux. Mademoiselle Bedubriden recélait sa virginité aux côtés d'un Saint-Cyrien de génie. Le jeune homme, profitant d'un moment d'inattention des convives, but dans la tasse de la jeune fille. C'est ainsi que Mademoiselle Bedubriden devint enceinte. Un beau midi, elle accoucha d'un plumet. Ses parents la torturèrent, déshonorer de la sorte la famille. Après tout ce qu'on a fait pour elle, toutes les leçons de piano qu'on lui a payées, ah, elle avait bien caché son jeu. Comment cela s'est passé? Quoi? Encore l'histoire de la tasse? Non, mais elle se moque, elle nous prend pour des enfants. Bien la peine d'avoir veillé jour et nuit à son chevet durant sa scarlatine. 10 ans de pension pour en arriver là. Le docteur, mandé en hâte, conclut à une grossesse nerveuse. Le plumet l'était aussi. Tout rentra dans l'ordre. Mais les Bedubriden se méfient. Ce n'est pas de sitôt qu'ils redonneront un thé.
Admirable pasticheur que l'auteur du géranium vipare et de la négresse blonde. Il n'en est pas de plus désopilant, une sorte d'Edmond Rostand au cube. Rappelons le vers célèbre de Georges Forest, qu'il est joli garçon, l'assassin de papa, et qui résume les sentiments de Chimène pour Rodrigue.
Quand le docteur lui dit « Monsieur, c'est la vérole indiscutablement », quand il fut convaincu, sans pouvoir en douter, qu'il était bien cocu, l'homme n'articula pas la moindre parole. Quand il réalisa que sa chemise ultime et son pantalon bleu par un trou laissaient voir sa fesse gauche, et quand il sut que 20 centimes, pas même 5 sous, faisaient tout son avoir, il ne s'arracha point les cheveux, étant chauve, il ne murmura point que le bon Dieu me sauve, ne se poignarda pas, comme eût fait un Romain, sans pleurer, sans gémir, sans donner aucun signe d'un vœu le désespoir, calme, simple, très digne, il prononça le nom de l'excrément humain.
Le sang, la volupté et la mort. Où donc la mort est-elle plus quotidienne qu'en Espagne? Où donc, mieux qu'en Espagne, ressent-on ce que Miguel de Unamuno appelait le sentiment tragique de la vie? Pour Miguel Hernandez, ce tragique-là est permanent et irréductible. Pour le divin Lorca, il permet qu'on joue avec lui.
Le destin sanglant. De sang en sang je vais comme la mer de vague en vague. Mon âme est couleur de coquelicot. Mon destin est celui d'un coquelicot malheureux. Et je vais de coquelicot en coquelicot jusqu'à tomber sous les cornes de mon sort. Des enfants sont venus, des semailles du néant. Et il en est venu plus d'un sous le signe d'une étoile en colère et dans une turbulente et mauvaise lune. L'empreinte d'un pied ensanglanté est sur ma vie tombée, et il est tombé une planète de safran en feu. Il est tombé un nuage rouge en fureur, il est tombé une mer mortellement blessée, il est tombé un ciel. Je suis né avec une douleur de coup de poignard. Un couteau m'attendait à ma venue au monde. On me donna du lait de coloquinte et du jus d'épée folle et homicide. Et lorsque j'ouvris au soleil les yeux pour la première fois, ce que je vis, c'était une blessure. Ce que je vis, c'était un malheur. Le sang, comme un fauve avide, me poursuit depuis que je suis né. Et même avant d'être engendré et poussé au monde, poussé par ma mère sur cette planète cupide, sur cette terre qui par les pieds me tire et par le flanc aussi, et chaque fois plus fort vers la fosse. Je lutte avec le sang contre les coups de griffe et du sort injuste, je me débats. Chaque corps sur lequel je bute est un autre jaillissement de sang, une autre chaîne. Les dards de l'avoine, bien que légers, s'ajoutent aux décorations de ma poitrine. Dans cette poitrine, l'amour des champs est né, et mon âme en jachère s'est offerte pour sillonner profondément la vie de blessures sans remède ni espérance à travers les angoisses de mort de sa charrue. Tous les outils en moi-même me guettent. La hache m'a laissé des marques secrètes. Les pierres, les désirs et les jours ont creusé dans mon cœur des sources. Mais elles n'ont fait qu'engloutir les chaînes et les mélancolies. Elles sont de plus en plus grandes, les chaînes. Ils sont de plus en plus grands, les serpents, plus grandes et plus cruelles leur puissance, plus grands leurs anneaux enveloppants, plus grand leur cœur et plus grand le mien. Dans leur alcôve peuplée de vide où seules les visites pénètrent, je conserve le coup de bec d'un corbeau ainsi que sa couleur. Je conserve aussi un paquet de lettres et de passions écrites. Je conserve encore un peu de sang, et même une mort. Ah, sang fulminant! Ah, sans grimpeur, pourpre rugissant, sentant sa douteur résonnante sous l'enclume de mon front, le sang m'a créé, m'a fait prisonnier, le sang m'amenuise et me rend gigantesque. Je suis une création de sang et de plâtre qui s'écroule de lui-même et se dresse sur des échafaudages d'os. Un maçon en sang mort et rouge accroche quotidiennement sa blouse blanche près de mon œil, et pendant la nuit je le recueille avec mon âme et même avec mes cils. Le sang s'accroît et agrandit l'étendue de son feuillage dans ma poitrine, qui, comme un peuplier débordant, se répand jusqu'à tomber informe dans des rivières menaçantes. Je me vois soudain emporté dans leurs eaux furieuses et je nage désespérément contre elles, comme contre un torrent de poignards. Leur courant acharné m'entraîne, me brise, m'engloutit, me bouscule. Je veux m'en écarter à coups de poing, mais mes bras s'en vont dans le courant. L'angoisse s'empare de mes forces. Je me laisserai emporter, mise en pièces, puisqu'ainsi l'ordonnent à ma vie le sang et sa marée, les corps et mon destin ensanglanté. Je ne serai qu'une seule et grande blessure, jusqu'à ce que je devienne un cadavre d'écume, vent et néant.
Federico Garcia Lorca, Poignard. Le poignard entre dans le cœur comme un soc de charrue dans le désert. Non ! Ne le cloue pas dans ma chair. Non. Le poignard, comme un ray de soleil, incendie les terribles profondeurs. Non ! Ne le cloue pas dans ma chair. Non. Memento. Quand je mourrai, enterrez-moi avec ma guitare sous le sable. Quand je mourrai parmi les orangers et la bonne menthe. Quand je mourrai, enterrez-moi, si vous voulez, dans une girouette, quand je mourrai. Mort. Quel effort du cheval pour être chien. Quel effort du chien pour être hirondelle. Quel effort de l'hirondelle pour être abeille. Quel effort de l'abeille pour être cheval. Et le cheval, quelle flèche aiguë il tire de la rose. Quelle rose grise il lève de son museau. Et la rose, quel troupeau de lumière et de hurlements elle attache au sucre vivant de sa tige. Et le sucre, quel petit poignard il rêve tout éveillé. Et les minuscules poignards, quelle lune sans étable, quelle nue, peau éternelle et rougeur ne cherchent-ils? Et parmi les hauts vents, quel séraphin de flamme je cherche, moi qui le suis? Mais l'arc de plâtre, qu'il est grand, invisible, minuscule, sans effort.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er septembre 1968.